au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre.
Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à Mario Langlois Rencontre. Au cours de la prochaine heure, je vous invite à plonger cette fois dans l'univers du football. Ça sent de plus en plus le football. Les camps d'entraînement universitaires ont recommencé. Le repêchage de la Ligue canadienne qui a eu lieu. La NFL s'active tranquillement. On a vu le contrat de Matt Ryan signé cette semaine. Il était avec nous, aux amateurs de sport, vendredi soir, en toute fin d'émission. Mais là, on manquera pas de temps pour apprendre à mieux le connaître encore. Nul autre que le grand patron du programme football des Carabins de l'Université de Montréal, Danny Matiosha, qui est avec nous en studio. Salut, Danny.
Salut, Mario. Comment ça va?
Ça va très bien. Merci d'être là. Toi qui es sur le point de célébrer ton 51e anniversaire de naissance. Comment a été ton 50e qui achève? Comment ça a été de frapper le 50 ans, Danny?
C'était intéressant parce que, justement, ma femme a décidé d'avoir certaines de mes amis puis de la famille tous réunis chez nous. Alors, c'était intéressant, puis là, je parle toujours ou assez souvent que rendu où je suis rendu dans ma vie, je travaille sur mon deuxième neuf, alors, j'ai encore beaucoup d'énergie, puis de passion pour qu'est-ce que je fais, puis je continue de travailler assez fort comme je faisais, ça fait 20 ans, alors j'espère que je ressens pas les effets d'avoir 50 ans, ou que je tombe dans la 50e.
Penses-tu à ça souvent, toi, l'âge, à vivre vieux, à la santé, à garder la santé pour vivre le plus longtemps possible? C'est pas de quoi qui t'obsède trop?
Non, pas du tout. Mais tu commences à réaliser que les années passent quand tu commences à travailler avec... Tu recrutes des jeunes ou... Leur père de famille, leur père, c'est des anciens joueurs que tu avais coachés à un moment donné, que ce soit au football civil en particulier, quand je coachais avec les Cougars de Saint-Léonard. Alors là, tu commences à réaliser que ça passe assez vite.
C'est là que tu as commencé ton football avec les Cougars de Saint-Léonard, imagine. C'est vrai que ça passe vite. C'est quoi tes premiers souvenirs de football, Danny? Comment t'es tombé en amour avec ce sport-là? Est-ce que ça a été ton premier amour de sport ou pas nécessairement?
Moi, c'était toujours le soccer à cause que je suis italien, puis mon père, c'était un grand passionné du soccer en particulier. On regardait les matchs de la Ligue en Italie, là, qu'est-ce que j'appelle la Serie A en Italie. Puis des fois, on faisait même des voyages en Italie pour aller voir des matchs de soccer, que ce soit la Roma ou la Juventus de Turin. Alors, wow. C'était mon premier exposure au soccer, puis j'ai tombé en amour avec soccer. Je le suis encore aujourd'hui. J'essaie de lire un article tous les matins en italien pour que je perde pas cette langue-là. Mais j'avais toujours une affinité pour le foot parce que je pensais que c'était le sport ultime d'équipe. Quand tu regardes, tu sais, les 45 ou 50 joueurs qui vont s'habiller chaque semaine, comment ils ont besoin de travailler tous ensemble. Puis l'autre chose qui m'attrayait beaucoup à ce sport-là, comme on est en train de le vivre à l'Université de Montréal, on a 85 joueurs, ça fait quelques années, puis ils étaient représentés par 12 groupes ethniques différents. Alors, je trouvais ça tellement intéressant parce que ça représente la vie. Alors, c'est transférable dans la vraie vie. Alors, c'est des choses que je trouvais intéressantes, puis je voulais embarquer là-dedans, puis les stratégies, puis comme entraîneur, tu as toujours un mot à dire sur chaque jeu. C'est pas des séquences de 5 ou 6 ou 7 minutes sur la patinoire, puis la rondelle, ça se passe entre les joueurs, puis tu regardes tout ça en arrière du banc. C'est que tu as un mot à dire sur chaque jeu, puis un jeu, d'habitude, dure 7-8 secondes.
Permets-moi, avant de plonger, parce que tu m'as quand même intéressé de par ton propos sur le soccer, de grandir d'une famille italienne, puis quand tu parles de 12 groupes ethniques, et c'est un atout pour toi, Danny, là, ça parle chez les Matiosha à la maison, je sais pas combien de langues ça parle, mais bon, ta langue maternelle, c'est l'italien. T'as grandi en anglais pas en français?
C'est en anglais et en français. Ma femme est portugaise. J'ai mes enfants qui parlent 4 langues. Alors,
ils ont pris le portugais de maman,
exactement,
j'imagine.
Tout à fait. Alors, c'est des quand on est en famille avec mes parents puis mes beaux-parents, c'est des soupers assez intéressants parce que facilement on peut jaser dans les quatre langues pendant un souper facilement.
Quand tes filles et ta femme parlent en portugais, est-ce que t'es dans le coup? Est-ce que tu suis la conversation?
J'essaie de suivre. Mais quand ils s'en vont dans cette direction, ils choisissent le portugais. Ça veut dire qu'ils sont en train de me cacher certaines choses ou ils veulent pas que je comprenne qu'est-ce qui se passe, mais en général, je comprends tellement bien, je comprends la langue. C'est le côté de m'exprimer, de répondre que je trouve un petit peu plus difficile. C'est pas une langue facile de parler.
Ça doit être un gros atout. Est-ce que ça te sert dans le football quand c'est le temps d'approcher un joueur, la famille d'un joueur, quoi que ce soit? Il me semble que, en tout cas, moi, c'est sûr que c'est un atout.
Absolument, absolument. Puis quand tu leur expliques un petit peu d'où tu t'en viens, un petit peu ton background, puis ça devient même plus facile pour attirer des joueurs puis de les convaincre de venir à l'Université de Montréal.
Avec une équipe qui représente bien ce qu'est Montréal également. Hein?
Oh, tout à fait.
Quand
tout
on parle
fait,
de Montréal cosmopolitain d'aujourd'hui, là, quand on regarde l'alignement des Carabins, c'est une belle représentation de ce que c'est.
Ça existe dans le vestiaire. Ça existe dans le vestiaire. Puis comme je dis, c'est transférable dans la vraie vie. Alors, ils sont en train de le vivre dans le vestiaire. Puis à un moment donné, quand ils tombent sur le marché du travail, ça ne sera pas difficile pour eux pour s'adapter, c'est sûr et certain.
Est-ce que tu retournes souvent en Italie? Tu y allais dans ta jeunesse? T'as-tu un bon souvenir d'être allé dans un grand stade pour un match
oui,
de soccer?
Pour
c'était
nous,
quoi le sentiment? Moi, je regarde ça à la télévision, mais j'ai jamais mis les pieds là.
Mais c'est moins tranquille que d'aller au Centre Bell ou peut-être d'aller de voir un match au Stade Monson des Alouettes. C'est une ambiance un petit peu particulière. Puis des fois, il y a beaucoup de policiers parce qu'il y a toujours des partisans de l'autre équipe qui s'en viennent de l'extérieur qui rentre dans le stade puis
des intentions douteuses
tout à fait avec les ultras. Alors des fois il faut faire attention de quel genre de billet tu t'achètes, où tu sois assis. Alors il faut faire attention, mais j'ai toujours adoré ces expériences là puis pour répondre à ta question, oui, souvent je me trouve en Italie. Quand j'étais jeune, mon père m'amenait jamais en Floride, il m'amenait chaque année en Italie de visiter son village puis d'aller voir des matchs puis c'est ça la raison qu'aujourd'hui, je l'apprécie énormément, cette expérience-là, puis de l'avoir vive, puis j'essaie de transférer tout ça à mes enfants aussi.
Est-ce que tu as toujours senti dans ta progression dans le monde du football l'appui de toutes les communautés? Je pense que tu sens l'appui, puis je veux pas commencer à décortiquer puis disséquer tout ça, mais l'appui des Italiens, des Italo-Montréalais, de sentir qu'un des leurs devient coach d'une équipe prestigieuse, t'as coaché Edmonton, puis ça doit procurer de la fierté.
Oh, absolument, absolument. Encore aujourd'hui, quand j'ai la chance de tous les matins, je prends un café dans la petite Italie, je suis là à 6h30 ou 7h le matin, je m'assois là, puis justement, on parle de foot, mais je suis convaincu que si je n'étais pas là, on parlait que tout d'autre que le foot, probablement, c'est le soccer, puis probablement le Canadien de Montréal, mais au moins, ils savent qu'il y a un de eux qui leur représente dans ce beau sport, puis ça leur donne une opportunité d'en parler.
Je vais pas commencer au tout début de ta carrière dans le football, mais il y a des moments clés, je pense, dans une carrière, puis on va pouvoir se promener autour de ça, mais quand tu offres tes services aux Alouettes de Montréal parce que tu veux travailler dans le monde du football, je sais pas comment on te reçoit à ce moment-là, qui te reçoit, mais c'est vraiment bénévolement que tu as commencé, je pense, à œuvrer pour les Alouettes de Montréal. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est ça qui t'a ouvert la porte.
Absolument.
Et elle ne s'est jamais refermée. Tu es encore dans le monde du football aujourd'hui. Mais ramène-moi à ce moment-là.
Bien, à l'époque, moi, j'avais la chance de rencontrer Jacques Dussault. J'ai travaillé avec Jacques Dussault, avec l'équipe du Québec de 19 ans et moins. On avait gagné quelques championnats ensemble. Je pense que c'était en 93 à Calgary, la Coupe Canada. Puis quand la franchise de Baltimore, les Stallions, sont transférés à Montréal en 96, à l'époque, l'entraîneur en chef était Bob Price. Puis j'avais demandé à Jacques, j'ai dit, Jacques, est-ce que tu peux appeler Coach Price pour lui dire que j'aimerais faire du bénévolat? Je veux rentrer, puis je veux les aider, puis je suis prêt de faire n'importe quoi. Justement, il a pris le téléphone, il a appelé, il était capable de m'aller me chercher une entrevue. J'ai rentré, puis les voir, on a discuté pendant 2-3 heures de temps, Puis justement, il m'a engagé, mais il n'y avait pas de salaire attaché à tout ça. Ça a duré 2 ans, 96 puis 97. C'était des journées assez longues, 12, 14 heures par jour. Je me rappelle encore que le 15 puis le 30 de chaque mois, à l'époque, on n'avait pas de dépôt direct. Quand tu te fais payer pas par dépôt direct, il venait avec une enveloppe, avec ton chèque de paye. Puis j'étais au bureau, puis tout le monde se faisait payer sauf moi. Puis je trouvais ça frustrant après quelques mois, mais je savais que j'avais besoin de faire mes preuves. Puis je me suis donné à l'époque 2 ans, parce que je me suis assis avec ma femme pour prendre cette décision-là, parce qu'on était mariés, puis elle payait tout. On était dans un appart, payé pour la voiture, et payé pour la bouffe, et payé le loyer, parce que moi, j'avais pas de revenus. Alors, on s'est donné 2 ans, puis la troisième année, en 98, finalement, Jim Pop m'appelle dans son bureau, puis il m'a fait un contrat professionnel.
Wow, écoute, c'est toute une histoire que celle-là. Là. C'est vraiment une décision conjointe de ta femme et toi de dire on va parier sur tes ambitions, sur ton potentiel et tes ambitions ensuite, parce que je veux dire, il faut considérer que tu as du potentiel. Ta femme a cru en toi.
Mais
avant Jim Pop, avant n'importe qui dans le football, elle a cru dans ton avenir dans le football.
Oh, c'est sûr et certain, puis je suis sûr qu'il n'y en avait pas beaucoup qui croyaient. Ça ne veut pas dire que mes parents ne croyaient pas, mais il y avait des doutes. Il y avait des doutes. Puis, à un moment donné, c'est ça la raison que je parle assez souvent que tout ce qu'on a accompli, on a fait ça en famille. Ça se fait pas tout seul. Parce que sans cet appui-là, il y a des fortes possibilités que je suis pas ici aujourd'hui, Mario, puis on n'en parle pas.
Danny Matsuyosha est notre invité. Ce n'est que le début. J'ai très hâte. J'ai déjà plein de questions en tête pour le retour de la pause dans quelques instants.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Nous sommes déjà de retour. Je vous rappelle que notre invité en fin de semaine est nul autre que Danny Matsuyosha, le grand patron du programme football des Carabins de l'Université de Montréal. J'ai envie de continuer exactement là où nous étions parce que c'est la vie, ça. C'est ça la vraie vie. C'est de là que ça part. Ce qu'on réalise professionnellement, c'est du bonus. C'est génial. Mais l'appui de ta femme. Et tu disais, du côté des parents, ben, il y avait un doute. Mais, et tu le vis comme père. T'as 3 filles. Pour nos enfants, on a tendance à vouloir les amener au chemin le plus sûr, en quelque sorte, plutôt que le chemin qui représente autant de risques. Parce que là, dans le fond, quand tu t'embarques d'une aventure football où tu n'auras pas de salaire pendant une couple d'années, puis là, tes parents prennent ça, pas sûr qu'ils disent « Let's go, mon Danny, c'est une mauvaise de bonne décision. »
Non, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est ça la raison que je te dis. Ça ne veut pas dire qu'ils m'ont découragé, ils m'ont dit que je perdais mon temps avec tout ça parce que c'était quasiment impossible que un Montréalais, un Québécois peut s'établir dans le football professionnel, en particulier dans sa ville natale. C'était au contraire. Sauf qu'ils se posaient des questions. Puis à un moment donné, après 2 ans, quand tu ne gagnes pas de salaire, c'est sûr qu'à un moment donné, tu veux t'asseoir avec ton fils ou ta fille pour leur parler. Écoute, tu t'en vas dans quelle direction avec tout ça? Est-ce que tu es encore convaincu que tu es capable de le faire? Aujourd'hui, le fait que je l'ai vécu, c'est sûr que ça donne une certaine perspective. Le fait que je suis père de famille, le fait que j'ai 3 enfants, je leur dis souvent que si vous avez des objectifs, si vous avez des rêves, poussez-vous jusqu'à la fin. Écoutez pas le monde autour de ou les critiques. Je pense que ton père puis ta mère vont toujours être là pour t'appuyer. Même si tu les réalises pas, tu peux vivre avec le fait que tu as essayé. Je pense que tu peux grandir dans cet épisode-là, dans cette expérience.
Est-ce que pour venir à bout de vivre ton rêve d'avoir une carrière dans le football, ce sacrifice-là que tu as fait pendant quelques années avec ta femme et ta famille, est-ce que c'est le plus gros sacrifice que tu as fait pour devenir ce que tu es aujourd'hui?
Oh, de loin, parce que on réalise de plus en plus qu'il n'y en a pas beaucoup de monde qui sont prêts de faire ce genre de sacrifice-là, de prendre 2 ans de leur vie puis de sacrifier sans salaire en sachant qu'ils ont une T'sais, il y a une certaine appui autour d'eux, parce que il faut dire les vraies choses, mais on s'en allait pas en vacances. T'sais, on mangeait pas dans les restos, les fêtes de semaine, parce que les moyens, on n'avait pas les moyens de le faire. On payait le loyer, on avait la bouffe chez nous, puis je travaillais. C'était
ça. Tu travaillais en parallèle aussi?
Je travaillais au football.
Parce que là, c'est des grosses journées, des journées de fou.
C'est ça. Puis je me rappelle encore, il y avait des soirées vers 9h30, 10h, que ma femme voulait aller prendre un café. Puis je me rappelle encore Bob Price en disant, écoute, est-ce que tu veux être un coach professionnel? Est-ce que tu veux gagner ta vie avec tout ça? Puis je lui disais oui. Alors il dit, t'es mieux de rester ici puis continuer de travailler, de nous aider pour aller chercher une victoire qui s'en vienne cette fin de semaine. Alors c'était toute une expérience, puis ça m'a aidé énormément, puis j'ai zéro regret. Je suis convaincu que j'étais pas seulement capable de grandir sur le côté professionnel, mais même sur le côté personnel.
Et je n'ai que de l'admiration pour ton épouse également, en plus, parce que je réalise que toi, pendant que tu t'investis 16 heures par jour dans le football et que tu rapportes pas de dollars à la maison pendant ces années-là, elle, non seulement elle pourvoit aux besoins, mais elle est privée de son mari, elle est privée de son chum dans plusieurs journées de la semaine. Est-ce que ça a été une épreuve pour vous, comme couple, vous qui allez célébrer votre 20e anniversaire de mariage,
oui,
qui clairement vous l'avez traversé, mais est-ce que ça aurait pu aboutir différemment?
Oh, absolument, absolument. Puis c'est ça la raison que je pense que ma femme aujourd'hui, c'est une blague, elle me dit qu'on est mariés, ça fait 20 ans, mais on a vraiment passé 10 ans ensemble. Alors, écoute, c'était des sacrifices, mais aujourd'hui, on le réalise que... Ouais. On l'apprécie beaucoup.
Ouais, trois filles. C'est quoi être père de trois filles pour un gars qui est entouré de gars de 6 pieds 5, 285 livres, puis de toutes sortes d'athlètes depuis toutes ces années-là, là? Ils te ramènent ça à terre, les filles?
Ah, absolument.
Ouais.
Exactement. Écoute, elle amène une certaine perspective quand j'arrive chez nous. J'adore d'être autour de eux, puis de prendre des vacances avec eux. Puis,
ils ont quel âge, Danny?
18, 14, puis 10. Puis on vive des expériences tous ensemble, que ce soit quand on était à Edmonton avec les Coupe Grey. Tout ce qui se passe au Carabin, ils sont impliqués avant les matchs, après les matchs. On est en train de le vivre en famille, puis ça fait du bien de retourner chez nous. Puis quand je retourne chez nous, Mario, on parle jamais, mais absolument jamais de foot. C'est toujours qu'est-ce qui se passe dans vos vies, puis qu'est-ce qui se passe cette fin de semaine, est-ce qu'il y a des activités, comment est-ce qu'on peut vous aider, puis c'est vraiment plaisant de parler puis de faire d'autres choses que le foot quand je retourne chez nous.
Je me rappelle pas si c'était en 2003 ou en 2005 les deux Coupe Grey que tu as eu l'occasion de remporter à Edmonton, mais tu sais, avec tout ce que tu nous dis aujourd'hui dans cet entretien sur ta famille, sur ta femme, sur le sacrifice que vous avez fait ensemble, moi je me rappelle encore du moment où, une fois la Coupe Grey gagnée, tu cherches ton épouse qui est tout près du terrain, là, dans les gradins. C'était significatif, c'était comme la célébration de, oui, ces grands sacrifices-là. Hein?
Oui, absolument. Puis qu'est-ce que je voulais faire cette journée-là? C'était tout un match, parce que ça a fini en deuxième période de prolongation contre les Alouettes en 2005. C'était ma première année comme entraîneur en chef. C'était pas une année facile non plus. C'est que j'ai dit, si jamais on peut aller chercher cette victoire, on peut aller chercher cette coupe-là, ça va être très important que je vais aller chercher ma fille puis de l'avoir dans mes bras. Puis d'avoir mes parents sur le terrain, puis ma femme sur le terrain. Puis j'étais capable de le réaliser parce que je voulais que tout le monde sache que ça se fait pas tout seul.
Et là, on le comprend tellement mieux. As-tu des photos pour immortaliser ce moment-là à maison? Je suis sûr que c'est dans ton disque dur que tu as l'image clairement ancrée dans toi, là, mais ces moments-là avec ta famille dans les célébrations de la victoire à Edmonton, en territoire étranger, et où ça n'a pas toujours été accueillant non plus.
Non, à Vancouver, pas du tout. Puis la beauté dans tout ça, c'est que, oui, on a plusieurs photos, mais il y a une photo en particulier avec ma fille... qu'à l'époque avait quoi, 5-6 ans, puis ça a fait la première page de tous les journaux à Edmonton, puis plusieurs dans l'ouest du pays. Alors on a gardé ces souvenirs là puis ces journaux là puis on l'apprécie de plus en plus quand on les regarde.
J'ai fait un bond assez rapide dans le temps pour parler de tes débuts comme bénévole entraîneur avec les Alouettes pour arriver à Coupe Grey Edmonton, mais tu sais, on se promène à travers les années comme ça. Mais je reviens à ce que l'entraîneur Richie te disait, c'est ça, Richie?
Oui.
Quand il dit, autrement dit, même, on dirait que dans le football, je pense que on gagne un peu le respect des gens. Je sais pas si ça se fait encore de même en 2018. Est-ce qu'il y en a encore qui arrivent pour travailler bénévole dans un club de football professionnel? Mais c'est sûr et certain que quelqu'un qui est prêt à faire ça va aller chercher l'attention d'entraîneur. Mais la manière qu'il te parlait, c'est comme, sentais-tu un respect? Sentais-tu qu'il voulait vraiment t'aider à progresser? Ou que des fois, c'était comme un peu le comme on dit, le gopher, là, tu sais, l'homme à te faire?
Non, mais que ce soit Bob Price ou Dave Ritchie, Coach Ritchie.
Ah, Price,
oui,
c'est ça.
Oui, c'était les deux. Parce que Price était là en 96, Ritchie en 97. C'était sincère. Il voulait m'aider.
Touchant.
Puis, qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'en 96, j'étais un bénévolat qui aidait le coordinateur d'attaque. Mais notre coordinateur défensif était Dave Ritchie. Puis, lui, il voulait m'avoir aussi. Alors, je travaillais les deux côtés du ballon à la première année. Puis, l'année suivante, quand Coach Ritchie a pris la relève à Coach Price qui partit pour Virginie, j'ai réalisé qu'il voulait me donner une position sur l'équipe. Il m'a donné la tâche d'être entraîneur des porteurs. Sauf que, je répète, la deuxième année, il n'y avait pas d'argent disponible pour ce poste-là.
Tu viens-tu de ton premier chèque de paye des Alouettes?
Je me rappelle que le contrat en 98, c'était 27 000 $.
Mais après deux années sans salaire, ça devait être, tu sais, qu'on te dise, hey, on te garde à nous autres, puis là, on va te payer. Ça devait être pour toi, sentais-tu que tu venais de gravir une marche importante?
Je pensais que j'avais gagné la loterie. Je vais être bien avec toi, Mario. Quand je me pointe chez nous avec un contrat de 27 000, ma femme m'a regardé et m'a dit, je veux bien comprendre, là. Ça fait deux ans. Nous avons fait deux ans de sacrifice pour un contrat en 98, dans une ligue professionnelle de 27 000 $. C'était un petit peu difficile de lui faire comprendre que sois patient parce que ça s'en vient. On va être capable de gagner, je vais être capable de gagner ma vie, puis on va avoir une belle vie ensemble si on continue de pousser tous ensemble ou les deux dans la même direction.
Ah, quel récit fort intéressant. Nous sommes avec Danny Machiocha, l'entraîneur, le responsable du programme football des Carabins d'Université de Montréal. On s'arrête pour quelques publicités et nous revenons tout de suite.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Déjà de retour avec notre invité en fin de semaine. J'espère que vous passez un aussi bon moment que moi, Danny Machiocha, l'entraîneur-chef, le patron du programme football des Carabins d'Université de Montréal. Dirais-tu qu'avec les Carabins, comment t'évaluerais-tu ce que tu vis en termes de football si tu compares avec tout ce que tu as vécu dans le monde du football professionnel? Où tu classes ça, ton expérience Carabin football universitaire?
Oh, probablement en haut. En haut, c'est... qu'est-ce qu'on a réalisé les huit dernières années avec l'Université de Montréal? Je sais que le monde va faire toujours référence à la Coupe Vanier de 2014, mais on a eu notre meilleure année académique dans l'histoire du programme de foot en 2014. On gradue 85% de nos étudiants athlètes. On est en train de les former, de les développer. On fait des présences dans l'hôpital Sainte-Justine. On fait 30 présences chaque année dans des écoles défavorisées. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces jeunes-là, c'est de leur donner une expérience complète. Puis en faisant ça, Mario, moi je dis souvent, c'est pas l'Université de Montréal qui sont gagnants, mais plutôt la société. Alors ça, c'est pour moi, qu'est-ce qu'on a fait les huit dernières années, la façon qu'on l'a bâti avec un changement de culture, ça vaut plus que les deux Coupes Grey que j'ai gagnées à Edmonton de loin.
Ah oui, de loin, précises-tu.
De loin, parce que je suis plus qu'un entraîneur en chef à l'Université de Montréal. Je dirais que c'est probablement 50 ou 60 de mes tâches sont d'être un entraîneur à l'Université de Montréal. Il y a un autre 40 ou 50 que pour certaines, je suis... ils sont une extension de ma famille. Je passe beaucoup de temps avec eux. Ça, pour certaines, je suis un père de famille. Des fois, je suis même un psychologue. Je suis là pour leur donner des conseils. C'est plus que du football professionnel. Puis la réalité, c'est que quand tu les recrutes, mais tu peux pas les échanger. Tu peux pas les échanger à McGill ou à Concordia ou au Sherbrooke. Il faut que tu les gardes puis tu continues de travailler avec eux puis les former puis de leur donner une expérience incroyable, que ça soit sur le terrain ou à l'extérieur du terrain. Alors, c'est de loin tout un défi, puis c'est beaucoup plus demandant que d'être un entraîneur dans la Ligue canadienne.
Si tu compares la relation très, très intense et de proximité que tu entretiens avec tes joueurs universitaires comparativement à une relation que tu peux entretenir avec des joueurs. Je sais que tu as eu de magnifiques relations avec certains de tes joueurs. Mike Pringle, l'ancien demi-offensif étoile, pour ne nommer que lui. Mais tu peux, est-ce qu'on peut atteindre ce niveau de relation-là avec un joueur professionnel?
C'est tellement difficile parce qu'il y a le facteur business qui est très important. Ça veut dire que tu tombes dans des contrats. Puis chaque fois que tu tombes dans des contrats, mais c'est sûr que les gens vont se faire payer, puis des fois, il y a deux autres formations qui payent un petit peu plus, puis là, tu as besoin de prendre une décision avec un tel individu, il faut gérer le plafond salarial. Il y a toujours plusieurs facteurs qui viennent en jeu. Puis ça, je l'ai vécu pendant 14 ans, puis à un moment donné, tu deviens froid dans tes relations parce que tu sais que tu peux pas avoir très bonne relation avec un tel parce que tu sais que ça va se terminer. Tu sais pas quand. Mais c'est une question de temps. Ça peut durer 2, ça peut durer 3-4 ans. Mais tu sais qu'il y a une fin à tout ça.
Ça t'éloigne de ta vraie nature, dans quelque sorte. T'as pas le choix de t'adapter.
Tout à fait. Comparé à qu'est-ce qu'on fait à l'Université de Montréal, c'est pas un choix de 4-5 ans, mais c'est un choix de vie. Puis tu fais partie de cette famille-là pour le restant de tes jours. Même encore aujourd'hui, des joueurs qui ont gradué chez nous, qui sont, que ce soit avec les Red Blacks, Antoine Pruneau, ou Jess Blanc avec les Alouettes, ou David Ménard avec les Lions de BC, Junior Luke, ils sont toujours de retour chez nous. Ils sont toujours de retour chez eux. Là,
leur deuxième maison. Un peu, là.
Exactement. C'est qu'est-ce
David
que tu,
Foucault.
David Foucault, tout ce monde-là, c'est quelque chose que tu ne vois pas chez les professionnels.
Professionnel, tu veux une coupe d'année, puis même des gars qui ont gagné la coupe cette année ou une coupe grand ensemble, des fois, tu leur demandes, l'as-tu revu, lui? Ah, ça n'a pas donné, il n'y a pas eu de réunion.
Tout
puis,
à fait.
Tu sais, les gars de 93, la coupe de cette année tente de provoquer, c'est pas évident de revoir tout le monde en même temps, là.
Non,
c'est sûr. Souviens-toi-en comme faux, parce que, évidemment, ça ne fait que passer. Et ça m'a permis de réaliser, j'ai même sursauté à un moment donné en faisant la lecture d'un article dans le Journal de Montréal, je pense que c'était en octobre passé, où je prenais conscience, à un moment donné, je lis l'article, puis là, j'apprends que Junior Ulysse dit à un journaliste du Journal de Montréal que Danny Matsuyosha est son mentor. Et l'un de ses mentors, Junior Ulysse, le boxeur que je recevais il y a quelques jours, explique-moi comment t'entres en contact avec le boxeur Junior Ulysse, puis est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes, d'athlètes hors football qui, de par l'université, maintenant entrent en contact avec toi, puis explique-moi dans le cas de Junior, ça a piqué ma curiosité.
Oui, dans le cas de Junior, c'est que souvent il se trouve chez nous, il connaît notre équipe médicale, il se fait soigner chez nous par notre physiothérapeute qui s'appelle Patrick Gendron, qui est le physiothérapeute de notre équipe des Carabins de l'Université de Montréal, l'équipe football. Il travaille strictement avec l'équipe football. Puis, il soignait Junior, puis à un moment donné, il me le présente, puis on commence de jaser de boxe, puis on commence de jaser de foot, le côté, justement, de business, puis tout ce qui se passe dans ce domaine-là.
Tu l'avais vu boxer, toi?
Oui, je l'avais vu boxer. Puis
tu savais c'était qui, là?
Tout à fait. Puis là, de plus en plus, je le vois chaque semaine, puis il s'assoit dans mon bureau, puis on commence à se connaître, puis il commence à demander pour des conseils, puis moi, je commence à avoir un intérêt pour lui, qu'est-ce qu'il fait. Puis depuis, deux ans et demi, j'ai pas raté un de ces combats, puis je sais qu'il y en a un autre qui s'en vient ici le 16 juin à Shawinigan, puis je vais être là pour l'appuyer, puis après chaque combat, il vient nous voir. Puis on s'assoit ensemble, puis on se parle. Puis il y en avait même certaines qui m'ont demandé d'aller dans le vestiaire, de lui parler avant qu'il embarquait dans le ring. Alors, c'est une amitié qui date de 3 ans. Puis il est souvent sur la ligne de côté de nos matchs aussi à l'Université de Montréal. Puis la plupart de nos joueurs le connaissent. Puis la plupart sont aussi toujours disponible pour l'appuyer, qui s'en vont lui voir boxer. Alors, c'est une belle amitié qui s'est formée, puis c'est une très bonne personne, puis on l'apprécie beaucoup.
C'est le fun, ça, la vie place sur notre chemin des belles rencontres en avançant, même si on a franchi la cinquantaine d'années, mais je peux pas m'empêcher de penser avec les habiletés athlétiques de Junior Ulysse que si tu l'avais connu avant, puis tu avais été à la tête du programme, je pense que tu lui aurais demandé de mettre un ballon de football dans ses mains puis essayer de jouer. Hein?
Mais probablement, parce qu'il a décidé, il avait une pratique, qu'il voulait porter des épaulettes puis un casque puis embarquer sur le terrain, puis je pense qu'il voulait jouer le poste de demi-défensif. Alors, on a eu du fun pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes pendant une pratique, mais c'est tout un athlète. C'est tout un athlète.
Et au plan sportif, pour revenir au programme des Carabins, de gagner des championnats nationaux, de gagner des grands matchs, as-tu vécu des émotions au-delà de que tout ce à quoi tu t'attendais, compte tenu que tu étais dans l'universitaire versus le pro, quand tu as gagné à Cookbury, écoute, P.A. Paranto me disait, il y a une couple de jours, j'ai gagné le World Junior, puis dans ma carrière, puis tu sais, il a vécu là, dans les arénas de la Ligue nationale, il n'y a rien vécu qui a coté ça. Toi, quand tu as gagné à Cookbury, pensais-tu de vivre quelque chose qui peut-être battre, qui allait battre ces sentiments-là?
Mais moi, je voulais toujours gagner une Cookbury à Montréal. Moi, c'était mon but ultime. Quand on l'a perdu en 2000, quand j'étais à les Alouettes comme entraîneur des Portas, puis on a perdu contre les Lions de BC à Calgary, j'étais déçu, comme tu peux même pas imaginer. Puis je voulais toujours gagner un championnat national, une Coupe Grey à Montréal. Malheureusement, ça n'a jamais produit avec les Alouettes. Alors, d'avoir gagné en 2014 au stade Molson devant 23 000 personnes, il y avait de la famille, il y avait des amis, un championnat national, mais pour moi, c'est plus que l'équivalent. Ça représente tout ce que je voulais vivre comme entraîneur des Alouettes, mais je l'ai fait dans une université qui n'avait jamais gagné un championnat national. Puis il y avait même du monde dans la Ligue canadienne qui disait: tu lèves en couleur si tu penses que tu peux gagner l'Université de Montréal. C'est quasiment impossible avec tout ce qui se passe à travers du pays, en particulier ce qui se passe de l'autre côté de la veine. Alors, c'était de loin ma plus grande satisfaction de l'avoir vécu, ce championnat national, dans ma cour, devant 23 000 personnes.
Danny Mathiocha est avec nous. C'est pas terminé. Et on revient tout de suite après la pause que voici.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois Rencontre.
Donc voilà, notre invité, je vous le rappelle, est Danny Mathiocha. Ça file à toute allure. On est là pour la dernière portion et la conclusion. Mais je veux revenir parce que c'était un moment tellement important en 2014, la conquête du titre canadien avec les Carabins de l'Université de Montréal. Je sais que c'est cliché comme question, mais c'est rare que j'ai pas des réponses à ces questions-là. Quand tu gagnes, t'es sur le terrain, 23 000 personnes, premièrement, qui l'eût cru, 23 000 personnes à Montréal pour un match universitaire, est-ce que le film, il déroule dans ta tête? Tu sais, le film de tout ce que t'as fait pour vivre ça.
Ah oui.
C'est vrai, c'est ça que ça arrive, hein?
Ça arrive, puis pour moi, c'était très important de vivre dans le moment. Parce que les Coupes Grey, on les a gagnés, on était sur la route, j'avais partagé ça avec ma famille, mais on pensait déjà à l'année prochaine, tout de suite. Ça a duré 24, 48 heures. Tu le réalises même pas, qu'est-ce que tu viens juste d'accomplir. Mais de l'avoir fait chez nous, d'avant, comme on disait, 23 000 personnes, des amis, membres de la famille, à l'université avec l'Université de Montréal, honnêtement, je pense que j'ai passé des mois de regarder ce match-là et de continuer de le vivre avec ma famille parce que c'était très important pour moi. Puis quand tu regardes comment on l'a bâti, comment on l'a réalisé, c'est probablement, il y a des fortes possibilités que tu peux faire un film là-dessus.
Peut-être un jour, sait-on jamais, hein?
On sait jamais.
Un livre, à tout le moins, en tout cas.
Minimum un livre.
Ça coûte moins cher, puis après
oui,
ça,
ben, sûr.
Ça peut séduire un producteur de cinéma, mais gagner, hein? Tu sais, gagner. Il y a pas, gagner même en jouant avec tes chums, des fois, aux cartes. C'est le fun de gagner, hein,
d'aller. Absolument. Puis la réalité, c'est que on a une tendance, des fois, que même quand on gagne des matchs, on a une tendance de toujours se rappeler des mauvais coups ou des mauvais jeux ou des mauvais appels. C'est ça la raison qu'à un moment donné, j'ai commencé à réaliser que quand tu gagnes, t'as pas besoin de t'expliquer pourquoi t'as gagné, puis c'était pas un match excitant, mais t'as trouvé une façon de gagner et tu dois l'apprécier, puis tu dois le célébrer avec tes coéquipiers ou tes entraîneurs, mais t'as pas besoin de t'excuser, même après une victoire, que c'était pas tout à fait convaincante.
Perdre en contrepartie?
Perdre, c'est difficile, mais c'est sûr que des défaites, puis après des défaites de Coupe Dunsmore, comme les dernières années, quand on gagne ou quand on perd, mais en particulier quand on perd un match de 2-3 points, Mais c'est toute une pilule à avaler. Puis la réalité, c'est qu'il faut vivre avec pendant 8 mois. Alors, tu as une tendance de continuer de jouer ces jeux-là. Pourquoi on a perdu? Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que je l'ai bien expliqué? Est-ce que j'avais bien préparé l'équipe? Est-ce qu'il y avait des détails que j'avais oubliés de leur dire?
C'est envahissant, hein?
Oui, ça finit. C'est comme si ça finit jamais. Mais la réalité, c'est que le moment que je perds tout ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que je passe un autre appel, puis probablement j'ai perdu le goût là, où j'ai pas le feu de continuer de me pousser pour aller chercher qu'est-ce que nous, on pense qu'on mérite, c'est l'excellence.
Tu vas célébrer ton 51e anniversaire de naissance bientôt. On parlait du coup de la cinquantaine tout à l'heure, mais sens-tu en vieillissant avec les années d'expérience qui s'accumulent, les nombreuses victoires, les quelques défaites qui laissent des grosses traces, mais c'est dur de répondre à ça pour soi-même, mais sens-tu que t'es un meilleur entraîneur? T'sais, sens-tu que t'es devenu, là, que t'es pas loin du sommet de ton art ou que t'as atteint le sommet de ton art ou tu le sens venir?
C'est bizarre. C'est intéressant que tu me poses la question, Mario, parce que justement, j'ai eu cette discussion-là avec un autre entraîneur. Ça fait une couple de semaines, puis je lui avais dit que les deux dernières années à Edmonton, c'était les années les plus difficiles concernant d'aller chercher des victoires. C'était 2 ans très, très difficiles parce que on gagnait pas beaucoup de matchs. Mais ces 2 ans-là m'ont aidé énormément sur le côté professionnel puis personnel. J'étais capable d'amener ces expériences-là, tout ce qu'on a bien fait, puis il y en avait beaucoup qu'on n'avait pas tout à fait bien fait, puis ça m'a aidé énormément de bâtir avec l'équipe qu'on a en place tout notre succès à date à l'Université de Montréal. Si je ne vis pas ces 2 ans-là, c'est sûr et certain, je ne serais pas capable de faire ce qu'on a fait à l'Université de Montréal.
Jacques Dussault, qui a été quand même pendant de belles années mon collègue à la radio et un ami, un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Toi aussi, je sais qu'il y a une belle amitié qui vous lie. Il a été l'entremetteur entre toi et Price à l'époque pour te faire entrer comme bénévole entraîneur chez les Alouettes de Montréal. Est-ce que Jacques est quelqu'un qui t'a inspiré, aidé dans ton coaching football?
Je dirais que si j'ai deux mentors, c'est Jacques, puis c'est Rod Russ quand il était avec les Alouettes de Montréal. Mais Jacques m'a aidé énormément. Jacques continue de m'aider. Même quand j'étais à Edmonton, je l'appelais pour lui demander des conseils. Même quand j'ai pris la job à l'Université de Montréal, je l'ai appelé les dernières années.
Lui qui avait démarré le programme,
exactement,
d'ailleurs.
Tout à fait. Puis encore aujourd'hui, on se parle assez souvent parce que c'est quelqu'un qui l'a vécu sur plusieurs niveaux. Alors, puis c'est quelqu'un que j'admire énormément. Puis pour moi, c'est comme un frère, Jacques. Puis quand j'en ai besoin, il est toujours disponible. Puis il m'aide énormément.
C'est difficile pour un entraîneur canadien, québécois, peu importe qu'il soit italo, québécois ou peu importe, de s'imposer, d'imposer le respect aux gars qui arrivent des États-Unis. Pourquoi c'est si difficile pour qu'un entraîneur d'ici ait une job d'entraîneur-chef dans la Ligue canadienne de football, bien que toi, tu l'as vécu, là, mais même si, étonnamment, c'est arrivé à Edmonton?
C'est difficile parce qu'il y a du monde qui nous donne pas des opportunités. On va se dire les vraies choses. Il y a un ratio dans le football pour les joueurs. La moitié de ton roster est composée par des joueurs canadiens. J'ai déjà parlé à commissaire à l'époque, c'était avant Mark Cohen, il y avait Tom Wright. J'ai dit, pourquoi on n'a pas une ratio pour des entraîneurs? Pourquoi on n'a pas de ratio de nombre d'entraîneurs canadiens? C'est la seule façon qu'on va être capable de les former, de les développer pour occuper des postes de coordinateur, puis un jour d'être entraîneur en chef. C'est quand le prochain entraîneur en chef québécois qui va gagner sa vie dans la Ligue canadienne?
As-tu une réponse à ça?
Non. Puis ça, c'est malheureux. Parce que quand on regarde qu'est-ce qui se passe au Québec avec le nombre de joueurs qui gagnent leur vie, que ce soit dans la Ligue canadienne, puis le nombre de joueurs qui gagnent leur vie avec la Ligue nationale, mais on réalise de plus en plus qu'il y a des bons coachs dans au Québec. Puis la seule chose qu'on a besoin, c'est une opportunité. Mais une vraie opportunité. Pas une place, une position où on va te donner une trentaine, 40 000 $, on va lui placer là, il va répondre quelques questions en français, puis le public va être satisfait avec le fait qu'on a engagé un Québécois. C'est pas ça. C'est une vraie opportunité où cette personne-là peut grandir, puis occuper un poste de coordinateur, puis entraîneur en chef, puis peut-être même DG un jour.
Avec tout ce que tu as accompli dans le football professionnel et universitaire, est-ce qu'il te reste un rêve, football? As-tu encore une grande ambition, football? Quelque chose que tu n'as pas vécu?
Pour moi, où je suis rendu dans ma vie, Mario, je veux continuer de faire une différence dans la vie des jeunes étudiants athlètes. Aujourd'hui, je suis assez chanceux d'avoir, je suis le seul Canadien dans l'histoire du foot d'avoir gagné la Coupe Grey puis la Coupe Vanier comme entraîneur en chef. C'était quelque chose que je voulais réaliser, j'étais capable de le faire, mais à la fin de la journée, j'espère que si je peux rester dans 10-12 ans à l'Université de Montréal, j'espère que quand je quitte l'Université de Montréal, ils vont se dire que c'était quelqu'un qui a fait une différence, qui a touché des vies, des étudiants athlètes, qui a eu un impact. C'est ça que je veux réaliser avant que je prenne ma retraite.
Est-ce que quelque part, même si ça n'a pas marché, même si les Alouettes t'ont pas donné l'opportunité que tu as eue à Edmonton, y a-tu une petite voix en toi qui pense encore qu'à un moment donné, tu mériterais de l'avoir, cette opportunité-là, quelque part en chemin?
Mais moi, je vais te le dire, Mario. Moi, j'ai eu des opportunités de travailler avec les Alouettes. J'ai eu des offres d'aller à Ottawa les dernières années, mais même à BC avec Wally Bourneau. La porte à Montréal, je ne vais jamais fermer cette porte-là de retourner avec les Alouettes de Montréal. Mais il faut être aligné, puis il faut que ce soit un bon mariage. Ça, pour moi, c'est très, très, très important. Mais en disant ça, je suis très content à l'Université de Montréal. C'est toute une job. Je travaille avec du monde qui sont impeccables, qui partagent la même vision. Ma patronne, c'est Manon Simon. Pour moi, c'est une sœur. C'est une grande famille. Puis on est en train de faire une différence. Puis pour moi, ça, c'est très satisfaisant.
Danny Mathiosia, un gros merci pour cette belle heure que tu nous as fait passer à revisiter des moments importants de ta vie et de ta carrière. Tu as été vraiment très généreux. Je te souhaite un bon été et bien sûr une super bonne prochaine saison de football.
Un gros merci, Mario.
Merci. Danny Mathiosia, entraîneur-chef, responsable du programme football des Carabins de l'Université de Montréal, était notre invité. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous 18h30 lundi aux amateurs de sport. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde et bonne fin de journée.